Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc dans cette semaine de Noël pour la suite du conte de Noël de Dickens, L'arbre de Noël. Mais hélas, c'est à présent aussi que j'éprouve pour la première fois pénible sensation. Combien il est triste, le lendemain, de retourner aux prosaïques réalités de la vie quotidienne. Mon imagination me ramène aux merveilles qui m'ont tant charmé. Je soupire en pensant à la petite fée avec sa longue baguette, et je voudrais partager son immortalité féerique. Mais quoiqu'elle m'apparaisse de nouveau sous diverses formes parmi les rameaux de mon arbre de Noël, elle disparaît presque aussitôt, et elle ne consent jamais à demeurer auprès de moi. Reviens, fée de mes plus doux enchantements, qui m'a inspiré l'amour du théâtre, même l'amour du théâtre des marionnettes, et jusqu'à celui du théâtre Joujou, avec son proscénium de carton, ses loges peuplées de poupées, ses décorations à l'aquarelle et ses acteurs pendus à un fil. Mais silence encore. Écoutez la musique des crèches et des modernes confrères de la passion. Cette musique a interrompu mon sommeil d'enfant. Elle a évoqué autour de ma couchette des images qui ravissaient ma piété naïve et que je salue encore aujourd'hui avec respect sous un arbre de Noël. Un ange parle à un groupe de bergers dans un champ. Des voyageurs marchent les yeux levés vers le ciel suivant une étoile. Un nouveau-né a pour berceau la crèche d'une étable. De graves vieillards sont réunis dans un temple et un enfant s'entretient avec eux. Une figure solennelle, avec un visage d'une beauté et d'une douceur ineffables, aide de la main une jeune fille morte à se relever. La même figure est debout près de la porte d'une ville, rappelant à la vie le fils d'une veuve. Vous la revoyez assise au milieu de la chambre d'une maison. Et par le toit mis à découvert, on descend jusqu'à elle, avec des cordes, un malade dans son lit. Une tempête bouleverse la mer. Un navire est sur le point de périr. La même figure s'avance sur les flots vers le navire. La voilà sur le rivage, enseignant une multitude. Elle est entourée d'enfants et en tient un sur ses genoux. Elle rend la vue aux aveugles, la parole aux muets, le mouvement aux paralytiques, la force aux infirmes, l'intelligence à ceux qui en étaient privés. Enfin, elle est sur une croix mourante entourée de soldats armés. Les ténèbres s'épaississent, la terre tremble. On n'entend plus qu'une voix qui dit « Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». D'autres souvenirs et d'autres images se multiplient au plus bas rameau de l'arbre de Noël. Mes livres d'école fermés, Virgile et Ovide muets, Terence et Plaute abandonnés sur un théâtre, des pupitres qui ont été mutilés avec des canifs, l'ardoise au calcul avec une démonstration interrompue, la règle de trois ayant cessé ses impertinentes questions, les raquettes, les cerceaux, les cordes à sauter laissées là aussi. Mais l'arbre est toujours plus vert, quoique le gazon qui est à ses pieds se soit fané sous les pas qui l'ont foulé joyeusement. C'est que j'ai quitté l'école pour la maison paternelle. C'est que les études et les récréations de la vie scolaire sont remplacées par les jeux et danses de la famille. Ah, Nous voilà tous réunis confortablement autour du foyer, où je retrouve un parfum de marron rôti et d'autres excellentes choses. J'écoute, et puis je parle à mon tour, faisant mes débuts de conteur. Nous nous racontons des histoires, et je l'avoue avec un peu de honte, ce sont des histoires de revenants. Quelle attention silencieuse! Quelle foi dans tous les regards! Nous voyons avec les yeux des personnages eux-mêmes, nous passons par toutes les émotions qu'ils ont éprouvées. Comme ce tableau de l'hiver est vrai, nous cheminons sous un ciel brumeux à travers une lande sauvage jusqu'à ce que nous soyons arrivés devant une avenue qui nous conduit à un vieux château dont les fenêtres sont éclairées par les lumières des appartements. Nous sonnons à la grille qui tourne sur ses gonds et nous introduit sous les grands arbres aux branches dépouillées. À mesure que nous avançons, il forme derrière nous une voûte plus sombre, comme si nous avions franchi les arceaux d'un souterrain qui nous défend de retourner sur nos pas. Mais nous sommes un voyageur fatigué qui a perdu son chemin. Brave gentilhomme qui ne songe guère à battre en retraite si l'on veut bien lui accorder l'hospitalité jusqu'au lendemain. Le château ne nous ferme pas la porte. Transi de froid, nous voyons d'abord avec une sensation de bien-être la vaste cheminée du vestibule, et puis celle du salon où brûlent d'énormes bûches que soutiennent de vieux chenets de bronze semblables à des lions accroupis. Aux murailles lambrissées sont des portraits qui nous regardent avec un air soupçonneux. Notre hôte et notre hôtesse ont une compagnie à souper. Ils célèbrent la Noël et nous invitent à nous mettre à table avec eux. Après le souper, nous sommes conduits à la chambre où nous devons coucher. C'est une chambre gothique. Nous n'aimons guère le portrait d'un chevalier en verre qui est au-dessus de la cheminée. Notre lit est un bizarre lit noir qui a pour ornement du côté des pieds deux sculptures en bois qui sembleraient avoir été enlevées exprès pour nous aux tombes de la chapelle. Mais nous ne sommes pas un voyageur superstitieux et n'y faisons bientôt plus attention. Nous congédions notre domestique, fermons la porte et après nous être revêtus de notre robe de chambre, nous nous asseyons devant le feu pour nous livrer à notre rêverie. Nous nous mettons au lit, mais nous ne pouvons nous endormir. Nous nous agitons et tournons sur nous-mêmes. C'est en vain, le sommeil ne vient pas. Les tisons de la cheminée jettent des capricieuses lueurs qui donnent une teinte lugubre à tout ce qui nous entoure. Nous ne pouvons nous empêcher de regarder de temps en temps à travers nos rideaux les deux figures du lit et celle qui est au-dessus de la cheminée, le chevalier vert, à la physionomie sinistre. Par l'effet des reflets de la lumière, ces figures semblent se mouvoir, ce qui n'a rien de gai. Quoique nous ne soyons pas un voyageur superstitieux. Nous descendons nerveux, de plus en plus nerveux. Et nous avons beau vouloir dominer nos nerfs par notre raison, nos nerfs l'emportent. Nous nous disons « c'est vraiment ridicule !» Mais nous n'y tenons plus. Il faut sonner et prétexter une indisposition. Déjà, notre main se dirigeait vers le cordon de la sonnette quand la porte s'ouvre d'elle-même et entre une jeune femme, horriblement pâle, avec une longue chevelure flottante qui glisse jusqu'au feu. S'assoit dans le même fauteuil que nous occupions naguère et là se tord les mains. Nous remarquons alors que ses vêtements sont humides. Notre langue se colle à notre palais et nous ne pouvons prononcer un seul mot, mais nous observons avec toute l'attention dont nous sommes capables cette apparition. Ses vêtements sont humides, ses longs cheveux souillés de vase. Elle est dans le costume que les femmes portaient il y a 200 ans et à sa ceinture pend un trousseau de clés rouillées. Elle est donc là. assise, et nous ne savons comment nous ne perdons pas connaissance, tant nous sommes terrifiés. Tout à coup, la jeune femme se lève et va essayer s'éclairouiller à toutes les serrures de la chambre. Aucune ne va. Puis elle fixe les yeux sur le portrait du chevalier vert et dit à voix basse, avec un accent terrible, « Les cerfs le savent !» Après quoi elle se tord encore les mains, passe devant notre lit et se retire par où elle était venue. Nous passons à la hâte notre robe de chambre, nous prenons nos pistolets, car nous voyageons toujours avec des pistolets, et nous voulons suivre l'apparition. Mais nous trouvons la porte fermée, nous tournons la clé, nous regardons dans la galerie sombre, personne. Nous tâchons de trouver la chambre où notre domestique est couché, et nous ne parvenons pas à la découvrir. Nous nous promenons dans la galerie sombre jusqu'au point du jour et nous rentrons dans notre chambre déserte où le sommeil nous gagne. C'est notre domestique qui nous réveille, notre domestique qui ne voit jamais, lui, de revenant. Nous descendons auprès de nos hôtes et faisons un triste déjeuner, tous les convives disant que nous avons un air singulier. Notre hôte nous accompagne pour nous montrer tout son château et nous l'entraînons nous-mêmes devant le portrait du chevalier vert. Là, tout est expliqué. Le chevalier vert avait trompé une jeune fille de charge attachée à la famille et d'une rare beauté. La jeune fille s'était noyée dans une pièce d'eau où son corps fut découvert parce que les cerfs refusait de s'y désaltérer. Depuis ce temps-là, nous dit notre hôte, on a toujours prétendu qu'elle traversait la maison à l'heure de minuit, essayant s'éclairouiller à toutes les serrures et surtout à celle de cette chambre à coucher, qui était la chambre du chevalier vert. Nous confions alors à notre hôte l'apparition que nous avons vue et lui, d'un air sombre, il nous prie de ne pas en parler. Voilà toute l'histoire. Mais elle est vraie, comme nous l'avons attesté avant de mourir, car nous sommes morts, en présence de témoins respectables. Nous n'en finissons pas avec les vieilles maisons et les châteaux gothiques, avec les galeries retentissantes, les chambres à coucher mystérieuses et les vastes appartements où reviennent les esprits, appartements condamnés et fermés depuis des siècles, où nous pouvons nous promener tout à notre aise, un frisson entre les épaules, pour y rencontrer des spectres sans nombre. Mais ce qu'il y a de remarquable peut-être, c'est que ces spectres peuvent se réduire à quelques types généraux. Les spectres ayant peu d'originalité et suivant des sentiers battus. Ainsi, par exemple, il est dans un certain vieux château une certaine chambre dont le parquet est taché d'un sang que rien au monde ne peut faire disparaître. Vous aurez beau frotter le parquet comme a fait le propriétaire actuel, ou le raboter comme fit son père, ou le laver à la soude caustique comme fit son grand-père, les taches de sang subsistent, ni plus rouges, ni plus pâles, toujours les mêmes. Ainsi, dans une autre maison, il est une porte hantée qui ne veut jamais rester ouverte, ou une autre porte qui ne veut jamais rester fermée, et de l'autre côté de laquelle on entend un bruit de rouet, un bruit de marteau, un bruit de pas, un cri d'angoisse, un soupir, un galop de cheval, une chaîne qu'on traîne. Ailleurs, c'est une tour d'horloge qui, à l'heure de minuit, sonne 13 coups quand le chef de la famille est au moment de mourir. Ou c'est un noir carrosse fantastique qui, à tel jour et à telle heure, est toujours vu par quelqu'un attendant à la porte de la cour.
Avec sa hotte sur le dos, avec sa hotte sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait non papa gâteau. Il a mis du pain sur ta planche, il a mis les mains sur tes hanches. Il t'a promené dans un landau, il t'a promené dans un landau, en route pour la vie de château, en route pour la vie de château. La belle vie dorée sur tranche, il te l'offrit sur un plateau. Il a mis du grain dans ta grange, il a mis les mains sur tes hanches. Toi qui n'avais rien sur le dos, toi qui n'avais rien sur le dos, il t'a couverte de manteau, il t'a couverte de manteau. Il t'a vêtu comme un dimanche, tu n'auras pas froid de sitôt. Il a mis l'hermine à ta manche, il a mis les mains sur tes hanches. Tous les camés, tous les émaux, tous les camés, tous les émaux, il les fit pendre à tes rameaux, il les fit pendre à tes rameaux. Il fit rouler en avalanche, perles et rubis dans tes sabots. Il a mis de l'or à ta branche, il a mis les mains sur tes hanches. Tire la belle, tire le rideau, tire la belle, tire le rideau. Sur tes misères de tantôt, sur tes misères de tantôt. Et qu'au dehors il pleuve, il vente, le mauvais temps n'est plus ton lot. Le joli temps des coups des franches, on a mis les mains sur tes hanches.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
À nouveau, L'arbre de Noël de Dickens. Écoutez ce qui arriva à Lady Mary. Elle était allée à la campagne chez des amis dans un manoir des montagnes d'Écosse. Fatiguée de son long voyage, elle avait demandé la permission de se retirer de bonne heure le soir de son arrivée. Le lendemain matin, étant descendue pour le déjeuner, elle dit très innocemment « Comme on s'est couché tard ici, et pourquoi ne m'avoir pas prévenu qu'il y avait une grande soirée ?» Chacun de demander à Milady ce qu'elle veut dire, et Milady de répondre ben, « J'ai entendu des carrosses qui allaient et venaient toute la nuit sur la terrasse. » Alors le propriétaire du manoir pâlit, et sa dame aussi, tandis que Charles de MacDougall faisait signe à Lady Mary de ne pas en dire davantage. Chacun se tait. Mais après le déjeuner, Charles MacDougall dit tout bas à Lady Mary qu'une tradition de la famille explique ce bruit de carrosse comme un signe de mort prochaine. En effet, à 2 mois de là, mourait la dame du manoir. Et Lady Mary, qui était une des dames d'honneur à la cour, raconta souvent cette histoire à la vieille reine Charlotte, quoique le roi George l'interrompit toujours en s'écriant « Quoi ? Encore des revenants ? Des revenants, mais c'est assez !» Il est encore une autre anecdote, non moins authentique. Celle de ce jeune homme bien connu de la plupart d'entre nous qui, lorsqu'il était étudiant de l'université, avait un ami intime avec lequel il s'entretenait un jour de la possibilité de revenir sur Terre après sa mort. « Eh bien, dit-il, convenons ensemble que celui de nous deux qui mourra le premier apparaîtra à l'autre. » Longtemps après, les deux amis avaient suivi des carrières différentes. Lorsqu'une nuit, celui que nous connaissons, ayant fait une excursion dans une province du Nord, prit gîte à une auberge isolée au milieu des tourbières du Yorkshire. Il s'était couché, mais il ne dormait pas. Et ayant regardé dans la chambre où brillait la lune à travers les vitres de la croisée, il vit son ancien camarade debout près d'un bureau et qui avait les yeux fixés sur lui. Il l'appela par son nom et l'autre, d'une voix solennelle, lui répondit « Oui, c'est moi. Ne m'approchez pas, je suis mort. Je viens pour vous tenir ma promesse. Mais je ne puis trahir les secrets du monde que j'habite. » À ces mots, le spectre devint une forme de moins en moins distincte, et se fondant en quelque sorte dans les rayons de la lune, il disparut. Vous avez vu dans notre voisinage ce château dont l'architecture est dans le style du siècle d'Élisabeth. Connaissez-vous l'histoire de la fille du fondateur de cette résidence pittoresque ? Non ? Eh bien, c'était une belle personne, à peine âgée de 17 ans. Elle sortit par une soirée d'été pour cueillir des fleurs dans le jardin. Tout à coup, elle rentre épouvantée dans le château, court à son père et lui crie « Oh, mon beau-père, je viens de me rencontrer moi-même. Bah, »« Quelle folle imagination !» lui répond son père en la prenant dans ses bras. « Non, non, » reprit-elle, « je me suis rencontrée moi-même au milieu de la grande allée. J'étais pâle, cueillant des fleurs fanées, j'ai tourné la tête et je les tenais à la main. » Elle mourut cette nuit même. On commença le tableau de son histoire, mais il ne fut jamais fini. Et l'on dit qu'il est quelque part dans le château, la face contre le mur. Vous dirai-je comment, un soir, au coucher du soleil, l'oncle de la femme de mon frère revenant chez lui à cheval, vit près du sentier de sa maison un homme debout devant lui qui semblait lui barrer le passage. « Que fait là ?» se demanda-t-il, cet homme en manteau. « Veut-il donc que mon cheval lui passe sur le corps ?»« Oh là, hé, prenez garde !» lui cria-t-il. Mais l'homme au manteau ne bougea pas. Le cavalier éprouva une étrange sensation en le voyant rester immobile, et il avança toujours, quoique ralentissant le trot. Quand il fut assez près pour toucher de l'étrier l'homme au manteau, son cheval fit un écart, et l'homme au manteau monta sur le bord du chemin d'une manière surnaturelle, glissant plutôt que marchant, sans paraître se servir de ses pieds et ne se retournant pas jusqu'à ce qu'il disparût. L'oncle de la femme de mon frère s'écria « Oh, ciel, c'est mon cousin Harry qui était à Bombay !» Il donna de l'éperon à son cheval, qui était inondé de sueur, et ne pouvant définir son étonnement, il se dirigea vers sa maison. Là, il revit la même figure, qui venait de passer sous la fenêtre du salon, laquelle s'ouvre sur la pelouse. Il jeta la bride à un domestique, entra. Et sa sœur étant assise seule, il lui demanda « Alice, où est mon cousin Harry ?»« Votre cousin Harry, John ?» « Oui, qui est revenu de Bombay, je viens de le rencontrer dans le petit sentier, il est entré ici. » Mais ni Alice ni personne n'avait vu ce cousin. Et on sut, plus tard, qu'à cette même heure, à cette même minute, il était mort, dans l'Inde. Un autre récit mettait en scène une certaine vieille fille très respectable, morte à 99 ans avec tout son bon sens et qui avait réellement vu l'enfant orphelin. Histoire qu'on a souvent racontée inexactement et que nous savons mieux que personne, car c'est par le fait une histoire appartenant à notre famille et la vieille fille était de notre parenté. Elle avait environ 40 ans, était encore très belle, et elle restait fille, malgré plusieurs demandes en mariage, toujours fidèle à la mémoire de son fiancé, qui était mort au moment où il allait l'épouser. À l'âge de 40 ans, disons-nous, elle se fixa dans une maison de campagne du comté de Kent, nouvellement achetée par son frère, marchand de la Compagnie des Indes. D'après une tradition, cette propriété avait autrefois été celle d'un jeune enfant orphelin confié à un tuteur, son plus proche héritier, et qui le fit mourir à force de mauvais traitements. Notre parente ne savait rien de cela. On a prétendu qu'il y avait dans sa chambre une cage où le tuteur enfermait l'orphelin. Cette cage n'existait pas, il y avait seulement un cabinet. Elle alla donc se coucher la première nuit de son arrivée chez son frère. Et le lendemain matin, quand la servante de la maison entra, elle lui demanda tranquillement « Quel est donc ce petit garçon à l'air si malheureux que j'ai vu plusieurs fois cette nuit entrouvrir la porte de ce cabinet, donner un coup d'œil dans la chambre et se retirer ?» La servante ne répondit que par un cri de terreur et s'enfuit. Notre parente fut surprise, mais c'était une femme d'une remarquable présence d'esprit. Elle s'habilla, descendit auprès de son frère et lui dit « Walter, j'ai été réveillé plusieurs fois cette nuit par un joli petit enfant à l'air triste qui entr'ouvrait la porte du cabinet pour donner un coup d'œil. J'ai voulu moi-même ouvrir cette porte et je ne l'ai pu. Il y a là-dessous quelques mystifications. » « J'ai peur que non, Charlotte, répondit son frère. Car c'est la légende de la maison. Vous avez vu l'enfant orphelin. Qu'a-t-il fait ?»« Il ouvrait doucement la porte, répéta la sœur, regardait et se retirait. Trois fois de suite, il a hasardé un pas dans la chambre. Je l'ai appelé alors d'une voix encourageante, mais chaque fois, il s'est retiré encore tout tremblant et a refermé la porte. » « Le cabinet, dit le frère, n'a pas de communication avec aucun autre appartement de la maison. La porte en est condamnée et fermée avec des clous. » C'était vrai. On voulut examiner l'intérieur du cabinet. Deux charpentiers furent employés à cela tout un après-midi. Et notre parente ne douta plus qu'elle n'eût vu l'enfant orphelin. Mais le plus étrange et le plus terrible de l'histoire, c'est que l'enfant orphelin fut vu aussi par trois de ses petits-neveux, trois fils de son frère, qui moururent tout jeunes. Chaque fois qu'un de ses enfants tombait malade, il accourait 12 heures auparavant tout en sueur à la maison et disait à sa mère « Oh maman, je viens de jouer sous le chêne de la pelouse avec un petit inconnu !» À l'air triste, qui était bien timide et qui ne parlait que par signes. Une fatale expérience apprit aux parents que c'était l'enfant orphelin et que celui de leurs enfants avec lequel ils venaient jouer devait bientôt mourir. Combien de châteaux allemands où nous allons nous asseoir seuls pour y attendre le spectre, où l'on nous montre une chambre que nous examinons d'un air inquiet, quoique comparativement confortable, où nous voyons des ombres sur la muraille produites par chaque reflet de la flamme du foyer. Combien d'auberges où la solitude pèse sur notre âme quand l'hôtelier et sa fille se sont retirés après avoir garni de bois la cheminée et servi sur la table proprette un chapon rôti avec un flacon de vin du Rhin. Combien de longs corridors où le bruit d'une porte fermée retentit d'écho en écho, comme la réverbération du tonnerre, et où la nuit venue, nous sommes initiés à tous les mystères de la fantasmagorie. Combien d'étudiants, la compagnie desquels nous rapprochons notre chaise du feu, tandis que notre jeune frère, assis dans un autre coin, ouvre de grands yeux étonnés et se lève, en repoussant le tabouret qu'il a choisi pour siège, quand la porte s'ouvre tout à coup avec bruit. Notre arbre de Noël est riche de pareils souvenirs. Ah ! Parmi ces scènes profanes et ces images moins pures, puissais-je retrouver toujours celle qu'évoque encore l'antique musique des crèches de Noël ? Qu'elle reste inaltérable au-dessus du cercle domestique, cette bienfaisante figure qui apparaissait à ma naïve et pieuse enfance. Qu'à chaque retour de cette époque chère à la famille, je vois reluire l'étoile qui brilla au-dessus de l'étable de Nazareth. Ô arbre qui va t'évanouir, laisse-moi apercevoir encore une fois, à travers tes rameaux, le regard de ceux qui m'aimaient et qui ne sont plus. Heureux ou malheureux, puissais-je dans ma vieillesse sentir encore battre mon cœur d'enfant et entendre cette voix qui dit aux hommes de croire et d'espérer. Voilà, nous avons terminé donc ce texte de Charles Dickens, L'arbre de Noël. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir et à demain.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.